October 14th, 2014.
14 octobre 2014. 5 à 6 heures, salle Santa Monica, réunion ICANN 51 réunion de l'ICANN, réunion conjointe entre le GAC et le conseil d'administration.
afternoon, everyone. If you could.
Heather Dryden prend la parole. Bonjour à tous. Je vous prie de bien vouloir prendre place.
Okay, I would like us to get.
Heather Dryden prend la parole. J'aimerais que l'on commence. Nous avons une heure pour notre échange avec le conseil d'administration. Nous avons un ordre du jour assez complet. J'espère que nous allons pouvoir tout couvrir en une heure.
The topics that I'm aware of that the GAC would like to raise. There is a bit of business in the GAC.
Je dois tout d'abord vous parler de certaines initiatives du GAC qui pourraient vous intéresser. Ce matin, nous avons élu le prochain président de ce comité. Nous sommes encore en processus d'élection. Nous n'avons pas encore reçu les résultats de l'élection des vice-présidents. Nous aurons ces résultats demain. Nous aurons 3 vice-présidents et nous allons être en mesure de vous informer de manière formelle comment sera constituée la nouvelle équipe de direction du GAC demain. Il y aura une période de transition avec l'équipe de direction actuelle et la nouvelle équipe pour nous assurer que la transition se fasse de la meilleure façon possible. Je suis ravie de vous informer que M. Thomas Schneider a été élu président du GAC. Ceci dit, je vais passer en revue la liste de points que nous avons dans notre ordre du jour. Il y en a qui sont un peu plus simples et d'autres qui nécessiteront une discussion un peu plus approfondie. En ce qui concerne la révision du programme des nouveaux GTLD, le plan de travail a été publié et nous voulions soulever la question de la mise en œuvre des sauvegardes et attirer votre attention sur certains problèmes qui attire notre attention et qui attire l'attention de nos collègues du GAC. Ensuite, nous voudrions aborder la question du « who is ». C'est un point assez court, mais qui représente une priorité pour nous. Et c'est pour cela que nous voulions le soulever dans nos discussions, juste pour nous assurer que les préoccupations du GAC soient comprises, ainsi que les initiatives qui sont mises en place par rapport au « who is ». En troisième lieu, nous voulons parler des initiatives en matière de responsabilité de gouvernance de l'ICANN. Ensuite, nous voudrions parler brièvement par rapport aux OIG et confirmer que le GAC continuera à contribuer aux efforts visant à chercher une protection pour la protection des OIG. Puis nous aurons une mise à jour sur la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Je crois qu'il y a des nouvelles de la part du conseil d'administration ou du NGPC. Nous voudrions parler aussi de la charge de travail de la communauté, vous donner des exemples par rapport au fait que cela représente une difficulté pour nous ici au sein du GAC. En outre, certains de nos membres souhaiteraient manifester leurs préoccupations par rapport à certains points en particulier, des points qui ont été discutés au sein du GAC, pour que vous puissiez savoir où nous en sommes par rapport à certaines préoccupations. Et dans cette liste, on retrouve le point gay et la décision qui a été prise récemment par rapport à ce nom de domaine de premier niveau. On parlera aussi de point spa. Il y a des questions ou des précisions qui vont être exprimées par la Belgique. Ensuite, Il y a d'autres points, des préoccupations ou un point qui concerne l'application de la loi, comment l'application, le service d'application de la loi est organisé au niveau de l'ICANN. Et nous voudrions parler aussi du secrétariat du GAC. Et je pense que c'est tout. Ce sont les points les plus importants que nous voudrions aborder aujourd'hui. Si vous me permettez alors, je vais commencer à passer en revue. Je vais attaquer le premier de ces points. Et je vais passer la revue. Je vais passer la parole à Steve Crocker. Steve Crocker, merci beaucoup, Heather. Félicitations mes félicitations à Thomas Schneider. Vu la situation dans laquelle nous nous retrouvons en ce qui concerne ces deux pistes de travail, à savoir la transition du rôle de supervision des fonctionnaires et la responsabilité de l'ICANN, nous sommes dans une période très importante qui va se poursuivre au cours des mois qui viennent. C'est pour cela. Bon, vous avez dit que vous aussi, vous êtes dans une période de transition. J'espère que cela veut dire que vous avez encore davantage de dirigeants disponibles pour travailler et non pas le contraire. Car nous savons qu'il y aura beaucoup de discussions et d'échanges avec vous. Bien entendu, nous serons ravis d'aborder les points que vous venez de soulever. Et nous devrions entrer dans le vif du sujet et je vous prie de choisir le point que vous souhaiterez aborder maintenant. Heather prend la parole. Merci Steve. En ce qui concerne la transition, nous aurons des ressources humaines à hauteur de 66%, c'est-à-dire 66% de nos ressources humaines pourront travailler avec vous. Nous avons des inquiétudes concernant le programme des nouveaux GTLD, les révisions que l'on prévoit. Ainsi que par rapport au calendrier ou au délai pour la prochaine série de nouveaux GTLD. Au début de cette semaine, nous avons eu des réunions avec le personnel. Notre collègue du GAC ont profité de cette occasion pour manifester leurs inquiétudes, des inquiétudes qui sont partagées et qui sont cohérentes, ce qui montre que c'est une préoccupation vraiment importante pour le GAC. Savoir comment vous envisagez cette nouvelle série. Très clairement, il nous faudrait davantage d'informations pour pouvoir mieux comprendre comment les choses vont se passer, notamment après la séance ouverte à laquelle on a assisté hier. En ce qui concerne ces préoccupations spécifiques, vous savez déjà qu'elles concernent les délais disponibles pour finaliser les révisions qui sont en cours et pouvoir tirer les enseignements par rapport aux problèmes qu'on a rencontrés, des candidatures qui ont représenté des difficultés, etc. J'aimerais savoir si les collègues présents ici dans la salle souhaitent manifester leur point de vue par rapport à cette question. Autrement, sinon, j'aimerais savoir qu'en pense le conseil d'administration. La représentante du Danemark prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Je remercie les membres du conseil d'administration d'être venus partager cette journée avec nous. Tel que Steve vient de le dire, nous avons un ordre du jour très chargé. Nous sommes dans une phase où il y a beaucoup d'événements qui se passent. Il y a la transition des fonctions d'IANA, l'amélioration de la responsabilité de l'ICANN, le quiz. Et tous ces points, tous ces sujets concernent les politiques publiques aussi. Donc en ce qui concerne les délais pour la publication du plan de travail et vu les révisions et les évaluations de cette série, nous sommes préoccupés par rapport aux délais disponibles pour mener à bien toute cette tâche. Nous continuons à échanger avec vous et avec la communauté par rapport à la série actuelle de GTLD, la série en cours. La vie du GAC est encore en cours de traitement. Et donc, avec ce nouveau calendrier qui est proposé dans le document, il semblerait que les évaluations vont avoir lieu en même temps que a lieu le processus de développement de politique de la GNSO. Ces deux initiatives seront simultanées et cela représente, cela soulève des inquiétudes. Heather prend la parole. Merci, le Danemark. Je ne sais pas si nos collègues du conseil d'administration souhaitent répondre à ce commentaire. Steve Crocker prend la parole. Je pense que la meilleure réponse consisterait à demander à CRAM de nous donner des informations spécifiques par rapport au délai prévu. Il s'agit d'un processus où il y a une gestion dans laquelle il faut prendre en compte toutes les composantes. Peut-être que vous pouvez nous parler de la révision de la GNSO et de l'affirmation de la révision de l'affirmation d'engagement. Akram Atala prend la parole. Il est important de savoir que l'affirmation d'engagement nous exige, en tant qu'organisme de mise en œuvre du programme, de faire une révision une fois après le lancement de ce programme. Jusqu'à présent, nous avons délégué plus de 400 TLD. Nous croyons que vers la fin de cette année, nous allons pouvoir dire que le programme a été lancé et une année plus tard, nous devrons mettre en place notre révision. Voilà ce qui est prévu dans le plan et ce qui est exigé par l'affirmation d'engagement. Actuellement, l'équipe de révision travaille à établir une ligne de base qui découle de deux études, une étude économique et une enquête. Pour le premier cas, il s'agit d'une étude qui analyse la concurrence, et la deuxième étude où l'enquête analyse la perception de la communauté par rapport à ce programme. Nous allons finir cette année ces deux initiatives et ensuite nous allons refaire une évaluation afin que l'équipe de révision puisse utiliser des indicateurs pour mettre en place leur révision. C'est-à-dire que l'année prochaine, nous allons créer des équipes de révision pour que, à la fin de l'année 2015, nous puissions avoir une équipe capable de mettre en place cette révision. C'est-à-dire, je ne veux pas que l'on commence cette révision aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est recueillir des informations pour créer une base de données que l'on puisse utiliser à son tour comme une base pour les indicateurs, pour établir des indicateurs. Il y a certains aspects que, par rapport auxquels la GNSO peut prendre des décisions. Par exemple, si une révision des politiques sera mise en place ou pas. Cela dépend de la GNSO. Nous essayons de tout coordonner de telle sorte que notre main gauche puisse savoir ce que fait notre main droite, pour ainsi dire. Et c'est pour cela que nous avons organisé cette séance. Steve Crocker prend la parole. Merci. Je remercie la représentante du Danemark de son commentaire. Je ne sais pas si Akram a répondu à votre question. Si vous voulez davantage de détails, la représentante du Danemark prend la parole. En réalité, on voit que dans ce calendrier, on indique qu'un processus de développement de politique commence pour la prochaine série en même temps que l'on fait une évaluation de la série qui est actuellement en cours. Et par rapport à laquelle on continue de travailler. Heather Dreidel prend la parole. Merci, le Danemark. Je ne sais pas si Chris Despain souhaite y répondre. Chris Despain au micro. Merci, Heather. Oui, peut-être ce qui n'est pas très clair, c'est que ce calendrier est fourni à titre indicatif et montre les dates les plus proches auquel nous pourrions faire quelque chose. Mais cela ne veut pas dire que ce serait comme ça. Personnellement, tout processus de développement de politique pour la prochaine série doit prendre en compte les révisions mises en place par rapport à ce qui se passe dans cette série actuelle. Akram, vous avez parlé de certaines dates pour le début des révisions. Et ce sont des dates que nous avons déjà établies. Mais le reste des dates sont fournies à titre indicatif pour nous montrer les dates auxquelles nous pourrions commencer à travailler. Akram Atala prend la parole. Oui, exactement. Et dans ce calendrier, il n'y avait pas une date indiquant quand nous allons commencer le processus de développement de politique sur le début de la prochaine série. Cela n'a pas été discuté. Heather prend la parole. Merci beaucoup. Donc, le GAC a une préoccupation assez importante par rapport au lien entre ces deux activités et par rapport au fait que le processus de politique, quand est-ce que ce processus de développement de politique sera mis en place? Je ne sais pas si mes collègues souhaitent ajouter quelque chose par rapport à cela. Le Royaume-Uni prend la parole. Merci, Madame la Présidente. La question qui me vient à l'esprit est la suivante. À quel moment la communauté pourra-t-elle voir ou savoir de quelle série s'agit-il? Parce qu'il y aura différentes options pour chaque série. Il pourrait s'agir d'une série limitée qui se limite uniquement à des noms géographiques. Et cela en raison de certaines défaillances de la série ouverte où certains participants n'ont pas eu l'occasion de mieux s'impliquer. Bref, en tant que conseil d'administration, quand est-ce que vous allez pouvoir dire à la communauté de quel type de série s'agit-il? Avec quel type de série vous allez travailler? Est-ce que cela est décidé après des consultations avec la Geneso? Steve Crocker prend la parole. Je n'imagine pas pouvoir travailler sans être à l'écoute de tous. Donc, vous avez évoqué plusieurs suggestions. Dans la discussion que nous avons eue hier soir, on a eu une espèce de table ronde avec les SO et AG et nous n'avons pas pu avoir un rapport ou un panorama complet. Donc, je crois qu'il faudrait penser à une série qui puisse faire en sorte que les pays en développement puissent être au même niveau que les pays développés. C'est une idée, par exemple. Akram Atala prend la parole. J'aimerais m'assurer que nous parlons de quelque chose de concret. Nous ne sommes pas en train d'analyser quel type de série nous avons lancée. Nous ne pensons même pas quand est-ce qu'on va le faire. Cette discussion n'a pas encore commencé. Or, s'il y a des demandes spécifiques de la part des pays en développement qui souhaiteraient y participer, à ce moment-là, on pourrait peut-être tenir compte de ces informations pour considérer les différentes options. Mais pour le moment, je ne suis pas au courant d'une demande qui aurait été présentée en ce sens par les pays en développement. On a beaucoup entendu dire par rapport aux marques, mais non pas par rapport aux pays en développement qui n'auraient pas pu participer dans cette première série. Heather Dryden prend la parole. Merci, Akram. Bruce Tompkins prend la parole. Je voulais tout juste faire un commentaire. Nous essayons de tirer des enseignements et de nous mettre à jour après la série de 2004. Cette idée date d'il y a 10 ans, ce n'est pas très récente. En ce qui concerne la suggestion du Royaume-Uni ou sa question concernant la Genesso, je tiens à dire que la Genesso, entre autres, essaye de collecter ou recueillir un ensemble d'informations par rapport aux commentaires que les gens pourraient avoir. Donc, s'il y a des commentaires, si des membres du GAC souhaitent faire des commentaires, alors que cette série est encore en cours, ils peuvent le faire. Nous avons aussi un agent de liaison de la Genesso au sein du GAC qui peut vous aider à voir comment le GAC peut participer en amont dans l'établissement de politique de la Genesso. Nous travaillons étroitement avec la LAC aujourd'hui. Et nous avons le SSAC, le RSSAC et le GAC, le comité du serveur Racine, qui ont toujours voulu participer et qui ont fait leur contribution par rapport au GTLD. La Genesso essaye de collecter toutes ces contributions qui viennent des comités consultatifs pour en tenir compte le plus tôt possible ou le plus en amont possible dans l'élaboration de politiques. Heather Dryden prend la parole. Merci, Bruce. Je pense qu'on revient un peu sur le commentaire du Royaume-Uni. Si un processus d'élaboration de politique est mis en place, dans quelle mesure vous êtes en train de regarder ces objectifs? Lorsque, à la réunion de Paris, le GAC a décidé de participer à ce processus, nous avions décidé que c'était quelque chose de positif. Et le GAC, ainsi que d'autres organes, ont compris qu'ils participaient à cette décision. Or, cela ne veut pas dire qu'en tant que communauté, on s'est mis d'accord sur ce que l'on veut obtenir. Au sein du GAC, nous avons écouté, au cours des années récentes, combien il était important la participation des pays en développement à ce processus. Je pense que ce message doit être transmis très clairement par le GAC. Nous allons parler maintenant de la question des sauvegardes et de l'avis du GAC en matière de sauvegarde, ainsi que des problèmes par rapport à la mise en œuvre de ces sauvegardes. C'est une question que nous avons déjà abordée avec le conseil d'administration lorsque nous avons demandé des précisions par rapport à la façon dont ces sauvegardes sont mises en place. Il y a un certain nombre de problèmes qui nous inquiètent. Pour pouvoir voir comment agir, nous avons créé un groupe pour analyser les détails de tous ces problèmes et analyser ce qui peut être fait. C'est un défi à relever car nous savons qu'une partie de notre avis correspond à des chaînes de caractères et à des opérateurs qui ont déjà passé des contrats. Nous devons reconnaître donc que le programme est opérationnel en ce sens. En même temps, il y a des problèmes de mise en œuvre qui nous inquiètent. Nous nous retrouvons dans cette situation où nous ne savons pas exactement quelle est la meilleure façon de répondre à ces inquiétudes. Je vais donc demander à mes collègues, notamment à ceux qui travaillent dans ce groupe, de faire référence à ces problèmes spécifiques, sachant que nous n'allons pas rentrer dans le détail, mais juste signaler la nature de nos inquiétudes. La Commission européenne a la parole. Merci, Heather. Je vais être brève. Très brièvement, je vais être brève. Pour revenir sur cette question, nous avons présenté une série de questions à la réunion de Pékin, à la réunion de Singapour et à celle de Londres dans nos communiqués, des questions concernant la mise en œuvre des sauvegardes. Nous remercions la réponse qui nous a été adressée le 2 septembre. Nous sommes satisfaits par rapport à certaines de ces réponses, mais certaines autres ne nous satisfaisent ne sont pas satisfaisantes encore pour répondre à nos inquiétudes. Nous avons une inquiétude très importante par rapport au fait qu'il y a un ensemble de chaînes de caractères dans la catégorie 1 et 2 qui sont mises en œuvre. Et nous avons le sentiment qu'il n'y a pas suffisamment de sauvegarde pour ce type de chaînes de caractères. Le NGPC et l'ICANN ne font pas tout ce qui est dans leur pouvoir pour pouvoir mettre en œuvre ces sauvegardes. Et c'est pour cela que nous voudrions reformuler certaines de ces questions. Je pourrais peut-être mettre l'accent sur les titres de ces inquiétudes, des sauvegardes. Donc, nous avons des inquiétudes par rapport aux sauvegardes liées au WHOIS. Il y a encore des interrogations par rapport aux risques liés à la sécurité. Le processus de règlement de litige en matière de engagement d'intérêt public et les PIC, ces engagements peuvent être coûteux, peuvent s'avérer coûteux, et il se peut qu'il n'y ait pas de mécanisme suffisamment rapide pour répondre à des cas urgents. Nous considérons également que la vérification et la validation de l'accréditation des bureaux d'enregistrement de catégorie 1 et 2 peut poser des problèmes. Nous ne savons pas très bien comment cela est géré. Bien sûr, j'essaye d'être bref. C'est pour cela que je ne vais pas m'étendre là-dessus. Heather prend la parole. Merci, Commission européenne, États-Unis. États-Unis au micro. Merci, Heather. Merci. Notre collègue de la Communauté européenne a abordé les questions que je voulais aborder. J'ai juste une chose à ajouter, à savoir l'avis du GAC en matière de chaîne de catégorie 2. C'est un appel lancé par le GAC pour que vous fassiez attention à une question qui n'était pas très évidente dans notre avis précédent, mais qui pourrait être plus claire maintenant. Nous sommes surpris que l'on ne respecte pas l'exigence de transparence et de non-discrimination. Il y a un titulaire de nom de domaine qui considère avoir été discriminé par les politiques d'enregistrement dans les chaînes de caractères de catégorie 2 et il n'y a pas de mesure de réparation. Il n'existe pas de mesure de réparation dans ce type de cas. Il est nécessaire donc que dans les spécifications des engagements d'intérêt public, on ajoute cette exigence de non-discrimination parce que ce titulaire de nom a le sentiment d'avoir été discriminé. Heather prend la parole. Merci les États-Unis. Nous avons couvert les principaux points que nous voulions soulever. Y a-t-il d'autres points à signaler? L'Espagne prend la parole. Nous sommes aussi préoccupés par le mécanisme proposé pour avancer en matière d'exactitude ou vérification d'exactitude du WHOIS. Devrait-on s'arrêter à la vérification syntaxique ou devrait-on continuer ou poursuivre avec la vérification d'identité? On n'est pas tout à fait satisfait avec la réponse que l'on a reçue. Merci l'Espagne, dit Heather Dryden.
Est-ce qu'il y aurait quelqu'un du conseil d'administration qui voudrait répondre à ceci ou faire des commentaires? Cheryl Lavigne prend la parole. Merci Heather. Je crois que les réponses détaillées ne seraient pas utiles maintenant. Nous devrions peut-être nous demander quels seraient les délais ou les périodes pendant lesquelles le GAC aurait besoin de nos réponses sur cela. Heather Dryden prend la parole. Le GAC travaille maintenant avec un groupe réduit en aparté de cette réunion pour se centrer sur ces thèmes et pour voir dans quel cas le GAC pourrait donner un avis plus approfondi ou faire des commentaires. Nous sommes dans une situation un peu compliquée par suite de l'étape à laquelle se trouve le programme, parce que l'on sait qu'il y a des contrats qui sont signés, qu'il y a des opérateurs qui travaillent déjà, qui sont déjà au travail. Donc nous ne voyons pas trop clairement comment nous pouvons transmettre ces préoccupations, nous pouvons vous transmettre ces préoccupations et comment elles peuvent être résolues. Nous espérons que ce groupe plus réduit pourra nous donner une idée de la manière dont les choses fonctionnent pendant que nous sommes ici à Los Angeles, pour que nous puissions en débattre et communiquer avec vous et avoir certaines idées sur les résultats. Je voulais vous donner une liste avec les thèmes pour que vous puissiez en prendre note et que l'on commence peut-être à réviser les préoccupations que nous avons. L'Australie demande la parole. L'Australie prend la parole. Merci, Heather. Je veux vous remercier de la question sur les délais et les dates butoirs, parce que c'est quelque chose sur quoi nous nous sommes un peu, enfin, inquiétés. Je commence à me demander si nous avons bien fait pendant les deux dernières réunions en posant des questions, tout simplement des questions. Nous sommes maintenant dans une situation où nous avons cette discussion au niveau du GAC et du conseil d'administration, alors qu'au niveau opérationnel, au niveau de la mise en œuvre, il y a des contrats qui sont signés. Le GAC donc s'inquiète sérieusement de la manière dont ces sauvegardes sont mises en œuvre. C'est-à-dire, il y a des contrats qui sont signés, qui sont à l'étape de la signature, si nous voulons continuer cela. Et cette discussion avec le conseil d'administration, comment pouvons-nous avoir un succès dans cette situation? À vrai dire, la situation n'est pas équitable pour le moment. Ce serait très bien de savoir, d'entendre dire de la part du côté du conseil d'administration, si l'on peut avoir une solution pour ce type de problème lié au processus que nous devons affronter. Nous, dans notre travail au GAC, nous avons beaucoup de thèmes importants et nous ne savons pas comment aborder tout cela d'une façon intelligente, toute cette question. Heather reprend la parole. Merci. Je crois que nous pouvons nous arrêter ici. Et que nous pouvons établir le lien entre ce thème et un autre thème, celui de la surcharge de travail dans la communauté. Nous estimons que nous continuons à nous battre contre les problèmes de mise en œuvre des sauvegardes pendant la première série, avec toutes les révisions qu'il faut faire. Cela soulève des questions fondamentales sur les objectifs pour une série future, ainsi que d'autres mesures à prendre ou d'autres pistes de travail qui vont être mises en œuvre. C'est très difficile donc pour le GAC de gérer toutes ces activités, tout simplement par rapport au GTLD. Quant au WHOIS, j'espère que nous transmettrons correctement le message. Il y a beaucoup de travail en cours sur le WHOIS et que le GAC a beaucoup de difficultés à trouver le moyen de déterminer quand et comment le GAC devra fixer son attention sur le WHOIS. Hier, nous avons eu une réunion où Bruce Tonkin a fait des commentaires très utiles qui nous ont donné une orientation, qui nous ont permis de mieux comprendre. Et nous voudrions exprimer la reconnaissance du GAC pour avoir fait partie du panel pour répondre à notre demande de Londres, pour avoir plus de clarté sur cela. Nous voyons donc une voie critique à suivre, comme nous l'appelons, quant au processus de développement de politique, s'il y a une mise en œuvre d'une politique et quelle est la manière de mettre en œuvre toutes ces activités pour pouvoir comprendre quelles sont les relations qui s'établissent entre tous ces domaines de travail. Pour nous, la mise en œuvre est très importante, en plus des processus de développement eux-mêmes. Comme un exemple, on nous a demandé aujourd'hui de joindre un groupe consultatif s'occupant de la mise en œuvre et qui s'occupe des conflits qui se présentent avec les lois nationales. Nous avons dit nous ne pouvons pas travailler là-dessus. Je crois que nous avons beaucoup de travail à faire et nous ne pouvons pas avoir une contribution du GAC en soi par rapport à tous ces thèmes liés au WHOIS, parce que le GAC essaie encore de comprendre où et comment il faut que nous centrions notre attention. Nous avons besoin que les représentants du GAC reviennent dans leur pays, qu'ils puissent parler avec les autorités d'application de la loi, avec celles qui travaillent sur la confidentialité, qu'ils puissent coordonner le travail avec les experts de leur propre pays pour pouvoir exprimer leurs opinions et les coordonner, et puis vous donner notre avis en tant que GAC. Mais nous ne pouvons pas pour le moment savoir comment nous devons le faire et quand nous devons le faire et où. Voilà donc la question essentielle que nous voulions enfin soulever dans cette réunion avec vous aujourd'hui. Le groupe consultatif de mise en œuvre du JUIS pourrait être peut-être reporté la formation de ce groupe. Tout ne peut pas avoir la première priorité constamment. Si nous n'y participons pas, nous serons peut-être critiqués de faire des contributions plus tard. Et si nous comprenons soudain qu'il faut prendre une décision et que nous ne pouvons pas y participer, bon, voilà ce qui nous inquiète. Je voudrais voir quelle est la réaction de mes collègues. J'ai informé le GAC de la réunion des leaders, des comités consultatifs et des organisations de soutien que nous avons eu vendredi avec le PDG et le personnel de haut niveau. Il y a beaucoup de travail à faire, mais si nous continuons à avancer, il faut que nous pensions à une série future de GTLD, il faut que nous pensions au JUIS, au groupe de travail des experts, provoquer un nouveau PDP pour répondre à ces recommandations. C'est trop de choses à gérer. Je voudrais avoir l'opinion du conseil d'administration à ce sujet. Steve Crocker prend la parole. Je suis sûre que l'un de mes collègues voudra prendre la parole. Chris, vous pouvez enfin en parler. J'ai d'autres choses à dire que je dirai après. Chris Despain prend la parole. Vous n'êtes pas les seuls à vous trouver dans cette situation. Nous sommes tous dans ces mêmes conditions. Nous nous sentons tous de la même manière. Alors, je pense que c'est absolument compréhensible. Votre préoccupation est absolument compréhensible. La seule chose que je peux faire, c'est de vous dire qu'il y a un certain niveau d'empathie et de compréhension par rapport à ce que vous sentez. Je vous suggère de constituer un groupe de travail pour gérer toute cette charge de travail. Bon, à vrai dire, je pense qu'il faut que nous prenions cela au sérieux. Je ne suis pas très sûre de la manière dont on peut agir. Mais le message que vous transmettez, en tout cas, si je peux le répéter pour voir si j'ai bien compris, c'est si quelque chose ne se passe pas, nous ne pourrons pas obtenir de vous ce dont nous avons besoin pour que cela puisse être matérialisé. Donc, la clé est le travail sur la transition et sur la responsabilité. Je pourrais peut-être vous demander d'aborder ceci en aparté, enfin en dehors de cette réunion, et qu'il y ait deux ou trois personnes qui puissent s'entretenir avec nous pour que nous puissions voir si nous trouvons la manière de trouver une solution. Bruce Tompkins ne parle pas au micro. Chris Despain reprend. Oui, peut-être nous pourrions avec Bill essayer d'aborder ceci comme une question urgente dans le groupe de travail du conseil d'administration avec le GAC. Nous pourrions établir peut-être des priorités, mais il faut que nous nous mettions d'accord là sur cela. Il faut que vous fassiez partie de ce débat. Bruce Tompkins prend la parole. Oui, en tout cas, c'est un peu plus vaste. Comme Heather Larry, nous avons besoin d'une feuille de route claire, avec des éléments clairement définis, pour savoir où le GAC pourrait donner sa contribution de manière plus profitable. Deuxièmement, il faut identifier où et quand le GAC peut collaborer. Il faut savoir comment on peut travailler avec la communauté pour respecter les dates butoirs, parce qu'il y a différents délais. Cela se fait en plénière tous les 3 mois. Il faudrait qu'il y ait un plan du projet qui soit plus clair et que cela se transforme ensuite dans la gestion du projet. Heather reprend la parole. Merci de votre réponse. Je crois qu'il est important de remarquer qu'en premier lieu, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit identifié par la communauté et présenté par la communauté pour voir quelles sont les priorités pour la communauté. Nous ne sommes à l'extrémité de réception. Nous ne faisons pas le travail. Nous recevons cela. Ce n'est pas nous qui commençons le travail. Nous ne pouvons pas contrôler cela sans votre coopération. Il y a des choses que nous pouvons faire en interne au sein du GAC pour avoir le soutien dont nous avons besoin et être critiques par rapport à notre travail. Mais il y a une partie du travail qui nous vient d'ailleurs. Nous devons travailler avec d'autres pour pouvoir établir ces priorités. Et en plus, par rapport à la clarté sur les priorités qui doivent être établies et comment nous pouvons participer là-dessus. Si le GAC sait qu'il y a trois questions ou un thème en particulier qui est en deuxième lieu, nous pouvons être peut-être plus souples dans notre manière de travailler et dans notre participation parce que nous savons qu'il s'agit des thèmes que nous devons aborder maintenant. Et pour ceux qui sont intéressés dans ces thèmes en particulier, bon, ils pourront travailler de façon plus active, ils pourront obtenir le soutien du GAC ainsi que de l'ICANN et les choses vont continuer ou vont commencer, à aller de l'avant. Je pense que le processus du GAC pourrait être plus flexible que vous ne pouvez l'imaginer. C'est donc une incitation à essayer de trouver une solution au problème. La Nouvelle-Zélande prend la parole. Je voulais encore réfléchir sur ceci. Je crois que nous sommes d'accord, en tant que communauté, que l'ICANN peut établir certaines priorités, qu'elle peut énumérer les trois premières priorités, dire, voilà, c'est là qu'il faut que nous nous focalisions, voilà les plus urgentes, voilà les plus importantes. Toutes les autres pourraient être reportées, une partie du travail sur le quiz, une partie du travail sur les nouveaux GTL. Il s'agit peut-être de choses importantes, mais pas peut-être les plus importantes. On pourrait donc arrêter un tout petit peu le traitement de ces questions-là. Heather Ryden prend la parole. Merci. Nous allons donc aborder la question de la responsabilité de l'ICANN et en premier lieu, je voudrais vous présenter une mise à jour de certains débats que nous avons eus ici à Los Angeles sur le processus de responsabilité. Ce que nous voulons faire, c'est établir des principes de haut niveau. Nous avons un petit groupe qui travaille sur cela en aparté. Si nous parvenons à un consensus là-dessus de façon avec suffisamment d'avance, nous estimons que cela pourrait nous aider dans le processus de transition du rôle de supervision de fonctionnaires et sur la question de la responsabilité de l'ICANN. Quant au rôle de supervision des fonctionnaires, nous avons une proposition tenant compte de cet ensemble de principes que le GAC veut établir. Nous avons beaucoup de points de vue sur les principes fondamentaux qui devraient être inclus dans cet ensemble et comment ils devraient être établis ou rédigés. Ce travail est encore en cours. Nous espérons pouvoir vous informer sur nos progrès à cet égard. L'une des questions spécifiques qui a été soulevée lors de nos séances de préparation avant cette réunion concerne le rôle du conseil d'administration dans la détermination de la manière dont le conseil d'administration considérera l'acceptation ou pas des recommandations qui viendraient à la fin de ce processus. Je crois comprendre que vous vous occupez de voir quelles sont les contributions ou les décisions que vous allez prendre à cet égard. Je ne sais pas si vous avez réfléchi sur la manière dont vous allez travailler là-dessus, parce que je pense que de la même manière que d'autres parties de la communauté, nous estimons qu'il s'agit d'une partie fondamentale du processus. Par exemple, si vous allez émettre des recommandations, quel serait le niveau d'exigibilité pour le conseil d'administration? Steve Crocker prend la parole. Il y a différentes implications dans tout ce que vous venez de dire. D'une part, nous avons la question de la Croix-Rouge. C'est le thème spécifique qui est présent à votre esprit, c'est cela? Bruce Tonkin prend la parole. Je voudrais comprendre la question. Heather, vous demandez ce que fait le conseil d'administration lorsqu'il reçoit des rapports de ces groupes concernant la responsabilité. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est Bruce Tonkin qui reprend. Le conseil d'administration en a discuté dans les statuts. Il y a des procédures concernant les organisations de soutien, la manière dont elles font des recommandations sur les politiques, aussi bien pour la GNSO, la ASO et la CCNSO. Il y a certaines différences entre les trois, mais le conseil d'administration rejette fondamentalement des avis ou des recommandations seulement si les deux tiers de la majorité du conseil d'administration estiment que cette recommandation ne vise pas l'intérêt public. Donc, le conseil renvoie ses recommandations au groupe de travail pertinent avec ses propres explications et ses propres inquiétudes. Par rapport au GAC, comme le disent les statuts, le conseil d'administration va avoir une réunion avec le groupe pertinent, comme nous l'avons fait à Bruxelles il y a quelques années avec le GAC. Et enfin, le conseil d'administration ne fera pas des modifications de façon unilatérale. Toutes ces modifications doivent avoir l'accord des groupes de travail et en dernier ressort du conseil d'administration. Nous n'allons pas faire de modifications aux recommandations tant que les groupes de travail travaillent sur ces recommandations que le conseil vient d'envoyer. Et Chris vient de me rappeler quelque chose. Ce que nous voulons faire, c'est présenter cette déclaration dans une résolution pour jeudi. Mais je vous donne juste un panorama général. C'est sûr que les avocats vont présenter cela avec beaucoup plus d'une façon beaucoup plus étendue. Heather Dryden prend la parole. Merci beaucoup, Bruce. C'est très utile pour nous de savoir ce que le conseil d'administration va faire pour pouvoir aborder les recommandations qui viendront du processus. Le Brésil prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier les membres du conseil d'administration de l'ICANN d'être venus ici avec nous. Je veux faire quelques commentaires sur la transition du rôle de supervision des fonctions de l'INA et le processus de la responsabilité. Premièrement, je veux dire que nous saluons la convocation de la communauté pour créer un groupe s'occupant de cette transition du rôle de supervision des fonctions IANA. Nous, au Brésil, non seulement en tant que gouvernement, mais aussi toutes les parties prenantes, nous faisons partie de ce processus. Nous avons un représentant gouvernemental et moi-même, en mon caractère de représentant du gouvernement, je dois dire que le processus ne suffit pas par rapport à ce que nous voudrions voir comme résultat à la fin du processus. Pour nous, la transition du rôle de supervision des fonctions IANA ne doit pas être limitée aux aspects techniques et opérationnels seulement. Il faut aussi que cela comprenne la question de la responsabilité, de la gouvernance et des questions qui, heurtent certaines sensibilités politiques. Nous estimons que l'annonce faite par le gouvernement des États-Unis modifie la dynamique de tout ce que fait cette organisation. On ne peut pas continuer à travailler comme d'habitude. Par exemple, quant à la responsabilité, il peut y avoir un rythme différent pour travailler, pour voir ce qui est le plus urgent. Je pense que l'annonce des États-Unis implique une date butoir et cela devrait nous pousser, nous tous, à chercher quelque chose qui nous permette d'aborder les inquiétudes de tous. Je veux aussi parler de la déclaration de l'aide mondiale indiquant que l'ICANN doit impliquer les organisations mondiales qui ont des mécanismes de responsabilité en vigueur de s'occuper de la communauté mondiale et des parties prenantes internes. La définition surgit de l'aide mondiale. La définition de la responsabilité dit que la responsabilité inclut des mécanismes pour la responsabilité des vérifications indépendantes ainsi que des mesures de révision et de rémédiation. Nous voyons qu'il y a une solution qui ne prendrait en compte qu'un aspect de la transition du rôle de supervision des fonctions IANA et qui ne concerne que cette supervision et qui n'aborderait pas d'autres questions qui sont importantes pour nous, que nous estimons importantes en tant que gouvernement. Nous avons participé pleinement aux réunions de l'ICANN, nous avons essayé de contribuer dans les discussions, mais nous avons été très critiques par rapport à cette juridiction unilatérale. Nous ne croyons pas qu'il s'agisse d'une question cruciale qu'il faille aborder maintenant. Par exemple, il y a peu de temps, nous avons dû affronter une situation où l'un des GTLD qui avait été demandé aurait pu donner lieu à un accord judiciaire. Cela fait que un certain nombre de gouvernements de ma région en Amérique du Sud s'opposent à une entreprise ou à une compagnie, et ce conflit sera tranché par un juge qui est en Californie. Alors, nous voulons parvenir à une situation où nous nous sentirons à l'aise, où nous serons satisfaits. Ce processus, à vrai dire, ne s'est pas déclenché pour une question d'ordre technique, mais plutôt pour une question d'ordre politique. Cela n'apparaîtrait pas dans la question de l'amélioration de la légitimité de l'ICANN. Bien sûr, cela augmente le niveau de complexité de l'exercice. Il est évident qu'il faut établir des limites parce que nous aurons autrement une tâche très difficile. Et je pense que cet effort vaut la peine d'être fait. L'un des problèmes que nous voyons, par exemple, par rapport à la gouvernance, c'est ce problème dont je vais parler maintenant. Le personnel de l'ICANN a dit que si les recommandations provenant de ce processus de responsabilité sont présentées au conseil d'administration, que les deux tiers du conseil décident que cela ne répond pas à l'intérêt public mondial, ces recommandations seront rejetées. Pour les gouvernements, ce serait un peu bizarre, ce serait une situation assez étrange. Si le conseil d'administration prend cette décision, nous allons décider de ce qu'est l'intérêt public mondial. Ces questions doivent être mieux comprises, elles doivent faire l'objet d'une approche plus claire. Je le dis parce que j'ai participé de façon enthousiaste, j'ai travaillé avec vous de manière enthousiaste, mais une solution trop limitée pourrait être rejetée par mon propre gouvernement même. Parce qu'ils m'ont dit, on vous a envoyé pour négocier une solution et qui sera peut-être plus satisfaisante pour le conseil d'administration de l'ICANN que pour les intérêts de votre gouvernement. Donc, nous sommes là dans cet exercice multipartite et nous voulons voir une proposition qui tienne compte des intérêts et des préoccupations des parties prenantes suivant la déclaration de l'aide mondiale dont je viens de parler. Merci.
Heather prend la parole. Bruce Tomkin, vous voulez répondre? Merci, Heather. Bruce Tomkin au micro. Je vais être claire. Il y a plusieurs processus, deux processus séparés. Il y a un processus technique qui s'occupe des fonctions techniques d'EIANA, mais comme vous l'avez dit, il y a un autre processus différent qui concerne un groupe de travail intercommunautaire qui consacre ses efforts à étudier la responsabilité et non pas à étudier ses fonctions techniques. Ce deuxième groupe intercommunautaire chargé de la responsabilité, s'occupe de la responsabilité dans un contexte plus large. Comme M. Strickland l'a dit, ce groupe plus large doit établir des priorités dans son travail parce qu'il y a beaucoup d'aspects de la responsabilité qui peuvent être pris en compte. Il faut donc choisir quels sont les mécanismes de responsabilité qui doivent être mis en place. Après, la fin de la transition du rôle de supervision des États-Unis. Ce deuxième groupe de travail serait un groupe de travail où votre gouvernement serait intéressé à participer. Heather Dryden prend la parole. Merci beaucoup de votre réponse. L'Indonésie, le Portugal, la Chine, l'Iran et le Japon. Très bien. Et je pense qu'ensuite, il va falloir continuer avec les autres points de notre ordre du jour. L'Indonésie prend la parole. Merci, Madame la Présidente. L'Indonésie souhaite se faire l'écho des inquiétudes manifestées par notre collègue du Brésil. Au cours de la réunion du GAC d'hier, l'Indonésie a soulevé la question de la manière, concernant la manière dont les institutions multipartites mondiales se trouvent sous le système ou dépendent du système juridique international, qu'elles devraient se trouver ou répondre à être régies par un système juridique mondial et non pas régies par un système juridique d'un seul pays, c'est-à-dire un système multipartite ou de multiparties prenantes. Cela rejoint ce qui a été dit par notre collègue du Brésil. Deuxièmement, j'aimerais dire que hier, c'était dimanche, au cours de la session du GAC, la Chine, par exemple, a demandé des explications par rapport à la façon dont le serveur Racine opérait, exploité par VeriSign en vertu d'un contrat avec la NTIA. La Chine a voulu savoir quel était le statut de ces activités. Donc, actuellement, la NTIA opère le serveur Racine à travers VeriSign et opère les fonctions Yana à travers l'ICANN. Tout cela est en harmonie. Or, si Yana est opéré dans un cadre multipartite qui ne répond pas à la NTIA telle que cela a été demandé par le gouvernement des États-Unis, parce que cette nouvelle solution doit être neutre et ne pas être rattachée à un seul pays ou à un groupe de pays, tout en étant en harmonie avec l'opération des serveurs de zone Racine opérée par VeriSign. Nous voulions savoir comment serait-il possible d'avoir, avec deux organisations qui ont un chef différent, comment on peut faire en sorte que ces deux organisations avec des chefs, entre guillemets, différentes, puissent continuer à fonctionner correctement. Heather Dryden prend la parole. Merci, l'Indonésie. Le Portugal. Le Portugal prend la parole. Merci. Je vais parler en portugais. Je vais être très bref. Nous avons eu un débat dimanche au sein du GAC.
Il y a des intérêts parmi nous, mais cette discussion doit être transmise au conseil d'administration. Le conseil d'administration va continuer à dire des choses qu'il a déjà dit et je n'attends aucune réponse du conseil d'administration. Je voulais tout simplement vous faire savoir quelle est la position du gouvernement du Portugal en ce moment sur ce qui arrive dans ce domaine et la transition du rôle de supervision des fonctions Yana est l'un des éléments qui est très important. Et non seulement sur la responsabilité, c'est beaucoup plus que cela. C'est le fait de mettre toujours le mot mondialisation après le mot ICANN. Les gouvernements ne sont pas un comité qui met des conditions à une entreprise. Tout cela se fait de manière intéressante. Net Mondial a beaucoup aidé. Pendant les mois à venir, l'on va continuer à parler de ce thème. Et cela n'a aucun sens que toutes ces questions des domaines de travail des aires qui sont de plus en plus ou de régions qui sont dans les régions soient traitées avec la loi californienne. Elles doivent être traitées par la loi internationale. Le Portugal n'a jamais dit qu'ils veulent avoir une solution intergouvernementale. Nous voulons tout simplement une solution intergouvernementale, la loi publique internationale. Heather Dryden prend la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais parler en chinois.
首先呢，我想说。
Tout d'abord, j'aimerais dire que les représentants de l'Inde et du Brésil ont soulevé cette question. Cette question est très importante pour nous. Nous suivons de très près cette question. Elle concerne la gouvernance internationale de l'ICANN. Au cours des dernières années, nous avons constaté que l'ICANN a mis en place beaucoup d'activités, beaucoup d'initiatives en matière de gouvernance de l'Internet, gouvernance internationale, y compris sa participation à la réunion de Net mondial, la création du panel de coopération internationale et la création des panels stratégiques. L'ICANN a aussi participé au FGI, aux assemblées de l'OIT, etc. Récemment, l'ICANN a lancé l'initiative de Net mondial avec le Forum économique mondial. Je demande au conseil d'administration ou à FADI de bien vouloir nous expliquer quelles sont les étapes à suivre par l'ICANN en matière de gouvernance de l'Internet. Notamment en ce qui concerne l'initiative Net mondial. Est-ce que vous avez déjà, connaissez déjà quelles vont être les prochaines étapes? Nous aimerions avoir plus d'informations pour pouvoir encourager les communautés, la communauté chinoise à participer à ces événements. Merci beaucoup. Heather Dryden prend la parole. Merci la Chine. Est-ce que quelqu'un souhaiterait répondre à cette question? Merci. Je donne la parole à l'Iran. Merci, Madame la Présidente. Nous remercions les membres du conseil d'administration. Ces réunions nous permettent de partager nos avis, nos points de vue. À ce stade, je pense que nous devons nous concentrer davantage sur le processus de responsabilité. Le processus de responsabilité et l'approche qui a été appliquée par le conseil d'administration en particulier doivent faire l'objet d'une révision, parce que cela découle de l'établissement d'un groupe avec des représentants des 13 communautés. Et ce groupe doit établir des organisations qui le composent, puis établir une charte, ensuite déterminer la question de la responsabilité, comme l'a dit le Brésil, et puis tenir compte de ce qui a été dit par le Portugal. Et puis faire en sorte que la charte fasse l'objet d'une consultation publique pour que, après la consultation publique, cette charte puisse être peaufinée et qu'ensuite, il y ait une consultation publique sur tout le processus de responsabilité. Ce groupe préparera un rapport et ce rapport, et voilà ce que nous voulons savoir, on doit savoir ce qui se passera avec ce rapport. Tout passe par l'ICANN, tout passe par le conseil d'administration. Ce que nous considérons, ce que nous suggérons, c'est que ce rapport final du groupe, s'il a été créé de la façon dont nous avons mentionné et dont nous avons parlé, nous pensons que le conseil d'administration ne devrait pas pouvoir auditer ou éditer ou modifier ce rapport. Le conseil d'administration pourra faire des commentaires par rapport à la responsabilité qui est finalement la... Et cela rejoint l'inquiétude soulevée par le Brésil, le Portugal et nos autres collègues. Nous voudrions savoir comment cette question de la responsabilité sera abordée. Y aura-t-il un système international ou un mécanisme d'une aide mondiale proposé par le Brésil pour traiter cette question de la responsabilité? Nous ne croyons pas que la responsabilité liée à l'ICANN soit accordée à l'ICANN. Il doit y avoir une autre, un autre organe vis-à-vis duquel l'ICANN devrait être redevable. Et on voudrait avoir plus de précisions par rapport à cela. Nous croyons que la révision de tout le processus qui a été annoncé par l'ICANN il y a 3 jours doit être prise en compte, doit prendre en compte tous les commentaires qui ont été mentionnés pour essayer d'arriver à une approche qui soit efficace et qui permette de parvenir à de bons résultats. Autrement, nous avons des activités sur la responsabilité. Mais cela va au-delà de la transition de la fonction IANA. La responsabilité est au cœur de cette action et doit être prise en compte. Malheureusement, nous avons mentionné beaucoup d'éléments qui semblent montrer une certaine réticence à écouter ce que nous disons. Et il s'agit d'une inquiétude et nous espérons qu'elle sera entendue. Heather prend la parole. Merci. Pour répondre à l'intervention de la Chine, je pense que Fadi Chehadeh souhaiterait donner une réponse. Fadi Chehadeh prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Si vous me permettez, je voudrais répondre à un certain nombre de commentaires qui ont été faits pour essayer d'aider à mieux comprendre cette situation. Permettez-moi de commencer par la responsabilité. Je pense ici que je suis en train d'écouter 3 choses. Il y a une question liée à la portée. Il y a une question qui est liée aussi à la relation entre la piste de travail sur la responsabilité et la piste de travail de la transition. Et il y a aussi un autre point concernant les résultats de ces activités. Permettez-moi d'aborder ces 3 questions rapidement. En ce qui concerne la portée, je pense qu'il est très clair à partir du nouveau document que nous avons publié il y a 2 jours concernant la responsabilité, il est très clair que tout est dans la portée. Soyons très clairs, il n'y a rien qui soit en dehors de la portée. Le document ne dit pas que l'on doive parler de X mais non pas de Y. Je pense que ce que l'on suggère, ce que suggèrent les commentaires du secrétaire Strickland, c'est qu'il faudrait y avoir 2 pistes de travail dans le cadre de la responsabilité qui avanceraient à différentes vitesses. Une piste qui travaillerait sur les questions concernant la responsabilité que la communauté considère comme nécessaire avant de passer à la transition. Et une autre piste qui prendrait davantage de temps parce que cette deuxième piste n'aurait pas des contraintes de temps. Mais la portée n'est pas limitée. Et je voulais préciser ce point. Le deuxième point concerne le lien entre le résultat de la piste de travail liée à la transition et la transition elle-même. À Istanbul, le secrétaire Strickland a été très, très clair. Le secrétaire adjoint Strickland a dit qu'il n'allait pas accepter une proposition de transition qui ne fasse pas l'objet d'un consensus concernant la responsabilité liée à la transition. Il a lié ces 2 aspects. Toute question par rapport à la transition sans un consensus de la communauté par rapport aux mesures pour pouvoir procéder à cette transition, cela est clair. Il faut donc que ces 2 pistes soient liées. Le troisième point concerne le rôle du conseil d'administration. L'inquiétude que j'entends ici et dans d'autres parties de la communauté, c'est que nous travaillons beaucoup, nous élaborons un ensemble de recommandations et le conseil d'administration, à travers des procédures légales que vous avez entendues évoquer par mon collègue Bruce Tonkin, peut les refuser. Soyons pratiques. Le secrétaire adjoint Strickland a dit que si le conseil d'administration n'échange pas avec la communauté par rapport à ce processus de responsabilité et produit ce qu'il appelle un accord de consensus où sont inclus le conseil d'administration et la communauté, cela n'est pas bien, c'est inacceptable. Il a dit qu'il faut une proposition qui fasse l'objet d'un accord général pour qu'il puisse la transmettre à son gouvernement. Je pense que cela doit nous rassurer. Il a fait ses déclarations publiques. Le gouvernement des États-Unis est ici et peut nous le confirmer. Ses commentaires ont été tout à fait clairs. J'espère que cela va nous aider à progresser dans la question de la responsabilité. Les cartes sont sur la table. Il n'y aura pas de transition sans des mesures minimum de responsabilité accordées par la communauté. Et troisièmement, si des recommandations concernant la responsabilité ne sont pas acceptées par le conseil d'administration et qu'il n'y a pas de consensus avec la communauté, cette proposition ne sera pas acceptée par les États-Unis. L'Indonésie, vous avez parlé des serveurs racines gérés par VeriSign. Juste pour être clair, je pense que vous avez voulu dire le maintien de la zone racine, le rôle en tant que pour maintenir la zone racine, parce qu'il y a deux services de serveurs racines. Nous parlons de leur rôle dans le maintien des serveurs racines. Et votre question était de savoir si le gouvernement des États-Unis finit son contrat avec l'ICANN et ce contrat. Qu'est-ce qui se passe avec le contrat avec VeriSign? Parce qu'il y a deux parties. Bien entendu, ces deux parties devront penser à un mécanisme pour pouvoir coordonner leurs activités, un contrat ou autre chose. Rien ne va se passer jusqu'à ce que la communauté dise quel sera le résultat. Et une fois qu'on saura le résultat, à ce moment-là, on verra comment ça se passe. Mais bien sûr, il y aura une gestion efficace de ce lien. Des mécanismes devront être mis en place pour pouvoir assurer que ces fonctions puissent être accomplies correctement. Mais avant, il faut que la communauté nous dise quelle est la proposition, quel est le modèle pour que l'on se mette d'accord par rapport à ce modèle. Il faut comprendre tout cela, mais il faut d'abord que la communauté nous dise quel est le modèle que l'on va adopter. La Chine a posé une question par rapport à Net Mondial. Qu'est-ce qui se passera maintenant? Net Mondial a fourni au monde entier un ensemble de principes et une feuille de route. Dans cette feuille de route, Net Mondial a suggéré certains éléments pour pouvoir avancer. La communauté discute encore ces éléments. Il n'y a pas de décision qui a été prise. C'est une communauté multipartite qui travaille avec l'ICANN et avec d'autres communautés. Nous avons eu une réunion à Genève avec le Forum économique mondial. Mais cette initiative est encore en discussion et il n'y a pas encore de résultats spécifiques. Dans les semaines qui viennent, le Brésil ou d'autres membres de la communauté seront ravis de recevoir vos commentaires pour pouvoir produire de façon ascendante une idée de ce que l'on va pouvoir faire d'ici dans l'avenir, pardon, les prochaines étapes à suivre. Pour l'Iran, j'aimerais finir avec un commentaire pour l'Iran. Le représentant de l'Iran a dit qu'il faut que l'on soit responsable à l'égard d'une autre entité. Le gouvernement des États-Unis a été très clair. Notre responsabilité est à l'égard de la communauté multipartite. Cette responsabilité ne sera pas redevable d'un gouvernement ou d'une organisation intergouvernementale. Dans le plus grand respect, je vous dis que ce sont les exigences que les États-Unis ont établies. Il n'y a pas de doute par rapport à cela. Si nous devons créer une autre entité, elle ne pourra pas être intergouvernementale. Et certaines personnes ont suggéré que l'on pourrait tout simplement recréer l'ICANN. Alors, pourquoi recréer ce processus? Pourquoi ne pas focaliser nos énergies à rendre l'ICANN le meilleur site qui puisse exister en le rendant plus efficace et plus efficiente. Travaillons ensemble. Nous avons encore un long chemin à suivre ensemble. Essayons de coopérer et obtenir les meilleurs résultats pour que l'ICANN reste responsable vis-à-vis de toute la communauté multipartite et vis-à-vis de l'intérêt public mondial. Heather Dryden prend la parole. Merci, Fadi. Avant de vous donner la parole, j'avais le Japon et je crois qu'ils doivent avoir l'opportunité de pouvoir faire leurs commentaires. Le Japon, s'il vous plaît, vous pouvez faire votre commentaire et je pense que le Brésil souhaiterait après répondre aux commentaires faits par Fadi. Le Japon prend la parole. Ma question concerne la relation entre la transition de l'IANA et la responsabilité de l'ICANN, notamment en ce qui concerne les processus. Nous croyons que dans la période post-transition, il y aura les parties prenantes qui prendront le relais par rapport à la supervision de l'IANA, mais il y a un lien historique. On n'a pas encore trouvé un processus très clair pour savoir comment nous pouvons relier les discussions qui ont lieu dans les différents groupes. Nous croyons que ce lien est nécessaire pour qu'il y ait une discussion intégrée entre la transition d'IANA et la responsabilité de l'ICANN. Nous voudrions que nous vous remercions de nous donner une réponse en ce sens. Heather prend la parole. Merci le Japon, le Brésil. Le Brésil prend la parole. Je voudrais remercier Fadi de son commentaire. Je crois que il a été très clair par rapport aux différences qu'il existe quant à l'approche appliquée par rapport à ces sujets. Nous voyons et nous comprenons ce processus de transition tel qu'il a été décrit dans la proposition de septembre 2015. Et on sait qu'il doit inclure des mesures en matière de responsabilité à la lumière de la transition de l'IANA. Et on peut comprendre que c'est l'approche que vous avez adoptée et l'approche d'ailleurs suggérée par le secrétaire adjoint Strickland. Mais je pense que votre approche et l'approche des États-Unis, je dois dire que mon gouvernement considère que la responsabilité devrait également comprendre d'autres mesures qui pourraient changer la nature de cet exercice. Il s'agirait d'un exercice avec une portée plus étroite qui nous permettrait d'arriver après septembre 2015 avec force et avec participation. Nous voudrions que ces processus puissent se rejoindre. J'aime mieux la réponse qu'a donné mon collègue, la personne qui a dit que le processus de responsabilité occupe une place importante, une place libre et qui a une certaine souplesse pour pouvoir insérer ces éléments dans la réponse finale. Limiter ces mesures de responsabilité à la transition de l'IANA, ce n'est pas notre approche. Et mon collègue, je pense qu'il a dit qu'il y a lieu de décider ce que l'on peut inclure dans ce processus de responsabilité. Il y a une certaine marge pour pouvoir arriver à un terrain d'entente et voir ce que l'on peut inclure dans ce processus. Mais dès le début, j'aimerais dire qu'il y a deux visions différentes. En principe, nous sommes d'accord, mais Nous ne pensons pas que l'on puisse accepter d'avoir une approche aussi limitée pour relier les mesures de responsabilité avec la transition de l'IANA pour cette date butoir de septembre 2015. Nous croyons que ce n'est pas suffisant. Et après cette date butoir, nous sommes tout à fait engagés à le respecter, ce délai. Nous ne croyons pas que ce délai est artificiel. Nous pensons que c'est quelque chose de très concret, mais nous préférons d'arriver à un bon accord au lieu d'arriver à un accord qui n'est pas satisfaisant, mais qui respecte les délais. Nous voulons participer activement, mais nous croyons qu'il doit y avoir un effort supplémentaire pour pouvoir respecter les principes de l'aide mondiale. Redol prend la parole. Merci, le Brésil. On a pris un peu de retard et nous avons encore certains points que nous voudrions soulever avant de conclure avec cette session. Je voudrais maintenant... Nous avons une réponse de l'Australie par rapport aux fournisseurs externes des fonctions de secrétariat du GAC. La Belgique voudrait des précisions par rapport à Point-SPA et le conseil d'administration, ou le NGPC pourrait nous parler de la question de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge et la protection de ces organisations. Je n'ai pas mentionné avant les modifications proposées pour les statuts afin de savoir si le conseil d'administration envisage de prendre des mesures par rapport à ces questions. L'Australie a une question, je crois.
Merci, Madame la Présidente. J'essaierai d'être bref parce que nous allons aborder quelque chose d'un peu moins général, peut-être, ou d'un peu moins important, mais qui mérite d'être abordé. Vous devez savoir que le GAC a eu un processus assez long pour parvenir à un modèle hybride du secrétariat, pour avoir le soutien de ce secrétariat. Et pour ce faire, nous avons conclu un accord grâce aux dons de certains pays que je remercie de leur généreux soutien. ACIG, l'entité choisie par l'ICANN, a déjà signé, a déjà accepté cet accord et le contrat a déjà été signé. Cette solution que nous avons cherchée pendant longtemps attend encore la signature de l'ICANN. Nous voulons savoir si cela va être résolu sous peu. C'est quelque chose que les GAC essaient de faire depuis assez longtemps et je voudrais profiter de l'occasion pour savoir si nous allons pouvoir atteindre cet objectif. Heather prend la parole. Merci, Peter. Je ne sais pas si les Pays-Bas ont un commentaire sur cela. Je voulais parler de points gays. Vous l'avez annoncé au début, Heather Dryden. Nous n'aurons pas suffisamment de temps, je pense, pour aborder ce thème. Mais si vous voulez présenter des questions à la fin de la séance, ce serait très bien pour que nous ne perdions pas de vue les thèmes que nous abordons et nous pourrions aborder ce type de thème. Il y a d'autres questions que nous devons traiter en ce moment et le temps s'écoule très rapidement. Je vous remercie de votre compréhension. Fadi, est-ce que vous alliez répondre à la question de l'Australie? Fadi Shehade prend la parole. Oui, je veux tout simplement dire que nous avons entamé des discussions avec ACIG et que nous espérons enfin parvenir très rapidement à l'adoption et à la signature du contrat de la part du conseil d'administration. Mais je veux souligner que notre première priorité, c'est de continuer à donner le meilleur soutien possible au GAC pour qu'il n'y ait pas de problèmes dans l'avenir. Donc, nous travaillons pour parvenir à ces fins. Nous allons particulièrement avoir une réunion spécifique avec le conseil d'administration après cette réunion de l'ICANN 51 pour aborder ce thème. Heather prend la parole pour la donner à la Belgique.
Thank you, Heather. I will speak in French.
Merci, Heather. Je vais parler en français.
La Belgique souhaiterait remercier le conseil d'administration pour la réponse au courrier de notre ministre qui nous a été adressé récemment. Nous voulons également vous remercier pour les efforts qui ont été déployés en la matière, le temps consacré. Nous allons examiner ce document et nous réservons le droit de vous communiquer des informations supplémentaires dès que possible. Cependant, nous souhaiterions vous communiquer une série de remarques préliminaires. Ces remarques porteraient sur deux points fondamentaux. Le premier point concerne le rôle du panel géographique. Dans le courrier, vous indiquez qu'aucun des deux candidats au point SPA n'a demandé donc à utiliser le nom de domaine en relation avec la ville de SPA. Or, à notre connaissance, justement, un des deux candidats avait mis en lumière le risque de confusion de ce nom de domaine avec le nom de la ville de SPA. Donc, je voudrais savoir un peu comment le panel géographique a tenu compte de cet élément. Ensuite, un autre élément concernant le panel géographique, nous voudrions savoir comment le panel géographique a pu tenir compte de l'input des gouvernements, dans la mesure où la décision du panel a été adoptée avant l'avis du GAC de Pékin. Donc voilà, ça c'est un autre élément de question. Enfin, le deuxième point concerne la suite de la procédure, à savoir l'examen du caractère communautaire de la demande. Nous avons été informés que les critères applicables aux demandes communautaires sont tellement élevés qu'il est quasiment impossible d'en bénéficier. Alors, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous confirmer le caractère assez restrictif de ces normes? Et quelle serait donc la plus-value d'une procédure qui tendrait à favoriser les projets ayant un véritable contenu sociétal, mais qui, in fine, se révélerait inapplicable? Alors, ma conclusion est la suivante. Je voudrais insister sur le fait que l'objectif de mon gouvernement n'est pas de défendre un intérêt national particulier. Ce dont il s'agit ici, c'est du respect des titulaires de droit. Il s'agit de sécurité juridique et de cohérence dans l'application du guide de candidature. En effet, ces questions relatives aux demandes communautaires suscitent de l'inquiétude auprès de nombreux candidats qui ont investi des sommes importantes dans le développement de projets communautaires, qui ont fait confiance aux garanties du guide de candidature, qui ont entrepris des négociations avec les autorités locales concernées et qui craignent aujourd'hui de voir ces efforts réduits à néant par la mise en œuvre d'une procédure de mise aux enchères. Donc, au final, nous pouvons nous rallier à l'esprit qui a prévalu à l'adoption des règles de priorité concernant les demandes communautaires, mais encore faut-il que ces procédures ne restent pas lettre morte. Je vous remercie.
Merci, la Belgique.
Prend la parole. Merci, la Belgique. Est-ce que quelqu'un souhaiterait répondre à ces commentaires du côté du conseil d'administration? Fadi Chehadé.
Le fait que vous travaillez avec l'ICANN avec toute ouverture et vraiment avec un esprit de résoudre les problèmes. On appréciera beaucoup recevoir vos questions d'une manière formelle, comme ça on peut vous répondre formellement le plus vite possible. Mais on apprécie beaucoup les points que vous avez faits.
Thank you. Okay. So the next.
Maintenant, c'est qui prend la parole. Bien. Nous avons la question du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge. Je ne sais pas si quelqu'un du conseil d'administration du NGPC veut dire quelque chose sur cela. Chérine Chalabi prend la parole. Je veux vous donner une mise à jour sur l'avis du GAC sur la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Si l'on tient compte surtout des communiqués de Singapour et de Londres, nous avons débattu de cette question dans plusieurs réunions et le NGPC a une certaine préoccupation quant à une partie de l'avis du GAC, en ce sens que certains éléments ou certains thèmes ne sont pas appropriés pour un processus de développement des politiques de la GNSO. Le GNSO s'est adressé au conseil d'administration en disant que l'avis présente des inquiétudes sur des structures qui ont été établies dans les statuts. Le conseil d'administration vous enverra une lettre sous peu. Mais pour pouvoir avancer, aujourd'hui, le NGPC a adopté une résolution pour donner une protection temporaire à 189 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et au nom complet du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tel que cela avait été recommandé par le GAC dans son communiqué de Singapour. Ces mesures de protection seront en vigueur jusqu'à ce que l'on avance dans une recommandation de politique de la part du conseil d'administration, la vie du GAC et la communauté. Heather Dryden prend la parole. Merci beaucoup de cette mise à jour. Quant aux propositions de modification des statuts, nous avons besoin des 2/3 de la majorité du conseil d'administration pour rejeter cette décision. Alors, je ne sais pas si le NGPC ou le conseil d'administration peuvent répondre à cet égard. Je crois que c'est le conseil d'administration qui va y répondre. Steve Crocker prend la parole. Bon, vous avez vu qu'il y avait une réaction importante par rapport à cette proposition. Cette réaction est liée à un certain malentendu sur le propos et sur le contexte. Mais le contexte était quand même a été toute une leçon pour nous tous, parce que les délais et les dates butoirs pour répondre à tout cela fait partie de la question de la responsabilité. Donc, pour l'intérêt, pour respecter l'intérêt de tous, du GAC, du conseil d'administration, etc., et de la communauté elle-même, il faut reporter à plus tard la discussion approfondie de ce thème dans un contexte plus large. Et c'est ce que nous pensons faire. Heather reprend la parole. Bon, je veux remercier tout le monde. Je veux remercier les collègues du conseil d'administration. Mes excuses. Bruce Duncan a d'autres commentaires à faire et nous voulons quitter cette réunion pour aller dans une réunion sociale. Mais je lui cède la parole. Bruce Duncan prend la parole. J'ai une question pour le GAC. En réponse à vos questions, est-ce que le GAC a des précisions par rapport à sa position sur les noms de domaine à 2 lettres pour le deuxième niveau des GTLD? Dans l'accord de GTLD, les opérateurs de registre peuvent demander l'approbation de l'ICANN pour déléguer des noms à 2 lettres ou des codes à 2 caractères pour le deuxième niveau, pourvu qu'ils aient un processus pour résoudre des questions suscitant des confusions avec les extensions géographiques. Un processus possible serait la publication de ces candidatures et si une objection est présentée à ce que l'opérateur de registre a proposé comme mise en œuvre, l'ICANN pourrait considérer cela. Mais je voudrais savoir si vous avez un avis à cet égard avant de commencer. Heather Dryden prend la parole. Merci beaucoup, Bruce. Nous aurons des commentaires et l'avis du GAC sur ce thème qui seront inclus dans notre communiqué. Nous avons déjà eu un premier débat initial et il y a apparemment différents point de vue sur la manière de traiter ces noms de domaine ou ces codes ou ces extensions. Actuellement, on consultera chacun des gouvernements sur la délégation ou la publication du code de pays propre tel qu'il apparaît dans la liste de l'ISO. Lorsque nous aurons fini notre communiqué, j'espère que nous pourrons exprimer ou montrer cette vision et nous centrer sur plus particulièrement sur cela pour pouvoir avancer, voir quelles sont les mesures à prendre. Nous avons eu un débat significatif. Nous vous donnerons d'autres précisions à cet égard. Une fois dit ceci, je voudrais encore une fois vous remercier de votre présence et d'avoir participé à cette séance ici avec nous aujourd'hui. Cette séance a été vraiment très utile. Elle nous a fourni beaucoup d'informations. Je veux en plus rappeler à nos collègues que nous avons une réunion sociale, un événement social avec le GAC et le conseil d'administration dans la salle California Showroom B. J'espère donc que le personnel nous aidera pour arriver à cette salle et que nous ne soyons perdus en cours de route. Steve Crocker prend la route. Ah bon, je pensais que c'était dans la salle Plaza, dans l'étage au-dessus. Nous sommes un tout petit peu confus. Et je veux parler d'un tout petit détail qu'il faut considérer. Nous voulons vous remercier. Nous voulons vous remercier, vous, des services que vous avez présentés dans le GAC. Une partie de la célébration sera faite en votre honneur. Je demande donc d'applaudir, Madame la Présidente.
Drinks are on us.
C'est nous qui payons le tour, hein,